Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et on va lire encore un autre passage, tiré de 1 Jean au chapitre 3, versets 13 à 19. 1 Jean, chapitre 3, versets 13 à 19. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui.
Bonjour tout le monde, ça va bien? Eh boy, ça va bien? Yes! Je m'appelle Yannick Étier, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici à l'Église de l'Espoir. Et avant de donner la parole à notre frère Basile, je voulais simplement remercier les gens qui ont prié pour les anciens, pour les pasteurs de l'Église. On avait une retraite de prière, vision. On lit dans le livre des Actes au chapitre 13, on retrouve en fait les pasteurs de l'Église d'Antioche. Et voici ce qu'on lit au verset 1. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit les rencontra et leur parla. Et c'est ça qu'on a cherché à faire pendant ces deux journées-là. Je veux remercier pour toutes les personnes qui ont prié. Certains d'entre vous avaient pris du temps à l'écart pour jeûner même et demander à Dieu de venir nous rencontrer. Ça a été un temps béni. Clairement, un temps qu'on prend pas assez souvent ensemble et qu'on veut faire plus régulièrement ensemble, mais dans la prière, dans les discussions, dans la parole de Dieu pour aller chercher un petit peu des choses que Dieu a mis, je crois, sur mon cœur à travers ma retraite d'études, repos, vision, tout ça. Il y a quelques mois déjà de 11 semaines. Et donc, on est vraiment emballé de voir tout ce qui ressort de ça, là où on s'en va. On a hâte de partager ça avec vous. Dans deux semaines environ, je vais vous faire un petit quelques minutes de carnet de voyage où je vais vous partager un peu les places où je suis allé, des choses que je suis allé apprendre là-bas, que j'allais chercher comme instruction dans d'autres églises. Et puis, on va revenir tranquillement à travers les prochains mois avec une vision qu'on va présenter à l'église qui va nous propulser dans les prochaines années. C'est vraiment excitant. Je suis particulièrement béni de travailler avec ces frères-là, de voir l'unité de l'esprit qu'il y a là, le désir vraiment de servir simplement l'Église, d'être là et prendre soin de l'Église et la conduire dans sa mission, c'est vraiment un honneur extraordinaire. Alors, je voulais vous remercier pour vos prières. Ce matin, je suis excité de placer l'Assemblée, l'Église de l'Espoir, sous le ministère de Basile. J'aimerais que Basile vienne me rejoindre à l'avant. Basile, c'est un petit gars de Sorel. Vous allez le voir tout de suite lorsqu'il va arriver en avant. Ah, il est ici. Basile, c'est un petit gars de Sorel. En fait, c'est un des pasteurs à l'église de Sorel là-bas. Et je pense que ce serait mieux de te définir comme un globe-trotteur. Ce serait plutôt ça. Hein? Mais partout où la famille Agba, et je salue son épouse aussi, partout où la famille Agba est appelée à servir, ils sont une bénédiction. Et Basile aime la parole de Dieu. Il y a une fraîcheur, il y a une foi qui est là, une liberté dans le Seigneur de simplement vivre la parole de Dieu. Et vous allez l'entendre dans le message de la parole. Alors, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver ici, puisque vous avez été avec nous pendant quelques années. C'est une joie pour nous de connaître le ministère que vous avez là-bas à Sorel, une grande bénédiction pour l'Église et de voir comment l'Église vous a accueilli et se réjouit d'être placé sous votre ministère. Alors, je te remercie de venir nous conduire dans la parole de Dieu, Basile. Que Dieu te bénisse.
Merci, Yannick. Bonjour à tous. Il y a longtemps que j'ai perdu l'habitude de prêcher devant une si grande église. L'église de Sorel est une petite église, moins d'une centaine de personnes. Mais ce matin, c'est pour moi un plaisir de revenir dans mon église, parce que Clotilde et moi, mon épouse qui est derrière, avec mes beaux-parents qui sont arrivés du Togo il y a quelques mois et qui sont encore avec nous pour quelques temps. Pour nous, l'église de Longueuil reste notre église. Je me souviens, la première, quand on est arrivé de la France, on a contacté Yannick et Normand, Joseph qui était ici, et c'est Normand, et avec un autre frère, qui sont venus nous accueillir à l'aéroport. C'est une grande bénédiction, cette église. Et nous considérons que notre passage à Sorel, nous sommes des ambassadeurs de Longueuil à Sorel. C'est pas si loin, mais il faut dire que nous pensons que nous sommes bien. Nous représentons bien l'église de Longueuil à Sorel. Donc, un ambassadeur n'est pas appelé à vivre à l'extérieur tout le temps. Il faut qu'il revienne de temps en temps rendre compte à son gouvernement qu'il a envoyé. Donc, voilà pourquoi je pense que ma présence ici ce matin était de mise. Je reviens à la maison, je viens rendre compte de tout le travail que le Seigneur fait partout où ses enfants sont. Avec votre permission, je vous demanderai de baisser la tête et qu'on puisse remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Père Céleste, ce matin, je bénis ton saint nom pour le grand privilège que nous avons d'être en ta présence. Seigneur, la Bible dit avec raison qu'une heure dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Effectivement, Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta présence, d'être sous ton regard. Seigneur, ce matin, puisses-tu tout simplement détourner les regards de ton peuple, de l'instrument que je suis, pour les placer sur toi, Jésus-Christ. Parce que toi seul mérites d'être vu, d'être entendu ce matin. Père Saint, je prie ce matin que ton esprit vienne nous parler, cœur à cœur, d'esprit à esprit, et que ta gloire se manifeste dans ton assemblée. Que ton nom soit béni, maintenant et pour toujours. Oui, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'Église de Dieu. Et ce matin, je me suis permis d'intituler mon message « Un corps parfait ». En biologie, on définit un corps comme étant l'ensemble des parties d'un organisme vivant. Donc, c'est l'ensemble des parties qui constituent un organisme vivant. Et cette définition cache deux vérités essentielles. Et ces deux vérités essentielles, c'est que le corps est composé de différentes parties. C'est pourquoi on parle d'ensemble. On ne peut pas parler d'ensemble quand il n'y a pas différentes parties. Il est composé de différentes parties. Donc ça, c'est la première vérité au travers duquel nous allons essayer de passer ce matin. La deuxième vérité au travers duquel nous voulons passer, c'est que cette définition cache le fait qu'il y a une certaine dynamique qui se crée à l'intérieur de ces différentes parties pour finalement constituer un corps. Donc, ce sont ces deux aspects, bien-aimés, sur lesquels nous voulons insister ce matin. Ces interactions vont atteindre leur summum, vont atteindre leur niveau maximum quand tout l'ensemble commence par fonctionner comme une seule entité, une unité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il y a, bien aimé, une grande différence entre l'union et l'unité. L'union, c'est en fait le rassemblement de différentes entités qui se sont mis en accord sur un texte et qui ont fixé pour objectif d'atteindre un but commun. Ça, c'est l'union. L'unité est quelque chose, par contre, une réalité intérieure. C'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. C'est quelque chose qui ne vient pas d'une organisation. Ce n'est pas le résultat d'une organisation. La Bible nous parle en ces termes quand il parle du corps du Christ. La Bible parle en ces termes dans le texte qu'on a lu ce matin, au verset 4, « Il y a un seul corps ». Il y a un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. L'Église de Jésus-Christ, bien-aimée, c'est ce corps si merveilleux, si parfait, dont j'aimerais nous entretenir ensemble ce matin. Mais pour comprendre la perfection de l'Église de Dieu, pour comprendre qu'est-ce qui fait de ce corps un corps si parfait, il y a deux aspects sur lesquels, bien-aimés, nous voulons insister ce matin. Le premier aspect, c'est qu'est-ce qui caractérise la vie de chaque partie qui compose le corps. Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise chaque membre, la vie de chaque membre de la famille de Dieu. Parce que le corps du Christ, c'est la famille de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise la vie de chaque membre de la famille de Dieu? Mais parler de la vie de chaque membre en tant que chrétien revient à parler de la marche du chrétien dans la foi. Notre marche de la foi, qu'est-ce qui la caractérise? C'est quoi en fait la marche du chrétien dans la foi? Voilà le premier point, le premier aspect sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Le deuxième aspect sur lequel nous voulons nous entretenir, c'est la notion même de l'Église en tant que corps vivant. Un corps vivant, c'est quoi? Pourquoi l'Église, la Bible qualifie-t-elle l'Église comme étant un corps vivant? La Bible dit dans le verset 16 de Éphésiens 4 que l'Église tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Qu'est-ce qui donne cette vie-là au corps du Christ? Alors, allons tout de suite à ce premier aspect dont nous parlons. Qu'est-ce qui caractérise la marche du chrétien? Autrement dit, qu'est-ce qui caractérise la marche de la foi du chrétien? Bien-aimé, permettez-moi de revenir sur la définition d'une église. C'est quoi une église? Tout le monde est d'accord qu'une église, ce n'est pas un bâtiment. Alors, on nous a défini, quand on était à l'école dimanche, j'ai fait aussi l'école dimanche, je suis content que mes deux filles soient à l'école dimanche ce matin, on nous définit l'Église comme étant l'ensemble des croyants. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas l'ensemble des musulmans, plus chrétiens, plus animistes, plus bouddhistes, et tous ils croient en quelque chose, vous me l'accordez. Ce n'est pas ça l'ensemble des croyants. La Bible nous définit que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté un jour de ne plus diriger leur vie, de ne plus être le maître de leur vie, mais qui ont demandé à la personne de Jésus-Christ d'être désormais le maître de leur vie, c'est-à-dire la personne qui désormais dirige leur vie. Ces personnes constituent ce qu'on appelle les chrétiens, et c'est ces chrétiens qui forment l'Église de Dieu. Et bien aimé, c'est de cela que nous voulons parler ce matin. Mais on peut se demander, pourquoi les appelle-t-on chrétiens? On les appelle chrétiens Tout simplement parce qu'il ressemble à Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre des Actes. On les appelle chrétiens parce qu'ils ressemblent à Christ. Alors si Christ habite en nous et habite pleinement en nous, la Bible dit que nous sommes devenus des chrétiens. Et si nous sommes des chrétiens, nous faisons partie alors du corps du Christ, c'est-à-dire de la famille de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais une question se pose. Un chrétien seul peut-il constituer l'Église? Non. Je ne veux même pas vous laisser réfléchir. La réponse est non. La réponse est non. Un chrétien seul ne peut pas constituer l'Église. C'est le sens même que Jésus a donné quand il disait que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que pour le Seigneur, l'Église était avant tout le rassemblement de toutes les personnes qui ont cru en son nom. C'était ce que Jésus entendait par l'Église de Dieu. Bien-aimés, il est donc important que nous puissions comprendre que le chrétien ne peut pas marcher seul, le chrétien seul ne peut pas constituer l'Église. Voilà pourquoi le chrétien n'est pas appelé à une marche de solitaire, mais il est appelé à une marche avec ses frères et sœurs. Ce matin, j'avais un peu peur que Alexandre fasse le message à ma place quand je suivais son enseignement à l'école dimanche ce matin. Et pour moi, à chaque fois que je suis appelé à prêcher dans une église, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et même quand je reçois une conviction, je doute toujours. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Et ce matin, je venais d'avoir par Alexandre la confirmation que c'est ce que Dieu voulait apporter à son peuple ce matin. La vie chrétienne n'est pas une vie de solitaire, ni une vie dans un monastère. C'est une vie au milieu des frères et sœurs qui nous donne l'occasion de pouvoir manifester notre foi jour après jour, instant après instant, de pouvoir vivre en communion les uns avec les autres. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Bien-aimés, il faut donc comprendre c'est quoi cette vie chrétienne. Qu'est-ce qui la caractérise? Cette marche de la foi, qu'est-ce qui la caractérise? J'aimerais attirer notre attention sur une première chose. Le premier caractéristique de la marche du chrétien, c'est de savoir et d'accepter que Christ vit en nous. Bien-aimés, nous devons le faire de façon consciente. Sans cela, nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes membres de son corps. Nous avons besoin de croire et d'affirmer que Christ vit en nous. Et comme ça, nous sommes membres de la famille de Dieu. Cette vérité, en fait, est lourde de conséquences. Accepter que Christ vit en nous, c'est lourd de conséquences. Et il y a deux conséquences liées à cette vérité. Quand nous acceptons consciemment que Christ vit en nous, il y a deux conséquences. Ces deux conséquences sont comme deux faces d'une même pièce de monnaie. Elles sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Ça veut dire que l'une ne peut venir sans l'autre. Voyons quelles sont les conséquences de l'acceptation que Christ vit en nous. La première conséquence, c'est que si nous acceptons que Christ vit en nous, nous avons une garantie. C'est comme une garantie. Une garantie, c'est quoi? C'est comme une sorte de police d'assurance. Pourquoi achetez-vous une police d'assurance? Est-ce que quelqu'un n'a pas d'assurance pour sa maison ici? Si le feu prend, vous êtes mal. On est d'accord? Quand vous achetez une auto, même avant qu'on vous fasse les immatriculations, une des premières choses qu'on exige de vous, c'est que vous puissiez payer une police d'assurance. Pourquoi? Parce que la police d'assurance vous assure qu'en cas de pépin, vous avez une solution qui vous permet de passer au travers. Bien-aimés, si vous acceptez que Christ vit en vous, vous avez acheté la meilleure police d'assurance qui puisse exister dans ce monde. Il n'y a point de police d'assurance plus fiable, plus consistant, où il n'y a pas de petits caractères cachés quelque part, mais tout est clair, limpide, simple, parce que c'est la police d'assurance de Dieu. Bien-aimés, Christ vit en nous, c'est ça la première conséquence, c'est ça la première face de cette pièce de monnaie, c'est que nous avons la garantie de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Cette garantie, nous ne la commandons pas. Cette garantie, nous l'avons gratuitement selon ce que la Bible nous enseigne. Mais, bien aimé, si ça s'arrêtait là, on serait bien heureux ce matin. Il y a une deuxième face à notre pièce de monnaie. En acceptant que Christ vit en vous, vous venez en réalité de déclarer la guerre. Voyez-vous, vous devenez le siège d'un conflit. Et ce conflit, il vient du fait que désormais, Christ vit en vous. Mais est-ce que le fait que Christ vit en vous, vous, vous êtes mort? Non, vous n'êtes pas mort. Donc, je vais vous expliquer une chose ce matin. La première chose, ce conflit naît d'abord entre en vous-même, ce qu'on appellerait dans votre moi, c'est-à-dire dans votre vieille nature, votre personnalité qui était là avant que Christ vienne habiter en vous. C'est ce que j'appelle le syndrome de la double personnalité. Voyez-vous, le syndrome de la double personnalité, c'est que désormais, il y a deux personnes qui habitent en vous. Et malheureusement pour vous, ces deux personnes sont constamment en contradiction l'un et l'autre. L'un dit « fait », l'autre dit « ne fais pas ». Ok ? L'un dit « avance », l'autre dit « recule ». Bien-aimé, c'est ça la double personnalité, le syndrome de la double personnalité. Généralement, le conflit que nous avons en nous-mêmes vient du fait que nous devons confronter ces deux mondes-là. Si l'histoire s'arrêtait là, on serait bien heureux encore. Mais l'histoire continue. Le conflit ne naît pas entre seulement vous et votre ne naît pas seulement dans votre moi, mais le conflit naît aussi parce que vous êtes entouré du monde. Voyez-vous, j'ai déjà entendu plusieurs définitions du monde. Le monde selon les chrétiens. Mais ce matin, j'aimerais vous donner une autre définition du monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est l'ensemble des personnes qui n'ont pas une double personnalité. Je reprends ma phrase. Le monde. Ce qu'on appelle le monde, c'est l'ensemble des personnes qui n'ont pas une double personnalité. Ils n'ont qu'une seule personnalité. Cette personnalité s'appelle le moi. Le monde, c'est ceux qui ont seulement pour personnalité le moi. Voyez-vous, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi vos anciens amis ne sont plus vos amis. C'est parce qu'en fait, il y a un conflit. Vous avez une double personnalité et eux, ils ont une personnalité unique. Donc, vous ne vous entendez plus. Il n'y a pas eu un gros problème entre vous. C'est qu'on vous a déclaré personne à double personnalité. Donc, à partir de ce moment, vous perdez les atomes crochus que vous aviez avec ces personnes-là. Vous rentrez en conflit avec les personnes qui ont qu'une personnalité unique. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas attiré à faire les mêmes choses que ces personnes. Mais, de plus en plus, à cause de cette vérité dont nous parlons, Christ vit en vous. À cause de cette présence de Christ en vous, de plus en plus, vous êtes attiré plutôt vers l'autre personnalité, c'est-à-dire Christ, et non le moi. Et parce que vous faites les choses plus, de plus en plus comme Christ, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne faites pas les choses de plus en plus comme moi. Et le conflit naît parce que vous n'agissez plus conformément à votre moi, mais vous essayez avec la grâce du Seigneur, d'agir de plus en plus conformément à la présence de Christ qui habite en vous. Mon message serait très beau si ça s'arrêtait là. Mais le conflit que vous avez créé n'est pas seulement avec votre moi et avec le monde, mais c'est avec le diable lui-même, le chef de ce monde. C'est avec le diable lui-même. C'est un combat spirituel. En acceptant que Christ vit en vous, vous venez de déclarer la guerre au diable en personne. La Bible dit quoi? La Bible dit que Christ est venu pour quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et Satan le sait. Satan sait que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. En fait, des fois, quand Satan vous attaque, vous avez l'impression que c'est vous que Satan attaque. Satan n'a rien à faire avec vous. Satan attaque Jésus. Mais c'est que Jésus, il est en vous. Est-ce que vous comprenez mon point? Satan ne vous attaque pas. Satan n'a pas son temps à perdre avec vous. Il veut Jésus. Sauf que désormais, Jésus est en vous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous attaquer. S'il veut atteindre Jésus, il n'a pas d'autres alternatives que de vous attaquer. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Celui qui habite en vous est plus fort que celui qui habite dans le monde. C'est ce que la Bible déclare. Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui habite dans le monde. C'est pourquoi des fois, quand les gens me voient marcher, ils pensent que j'ai les épaules carrées. Non, ce n'est pas une question d'épaule carrée. Je suis fier. Je suis fier de celui qui habite en moi. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de moi, s'ils veulent jaser, ils peuvent jaser. Moi, je continue ma route parce que je sais que celui qui habite en moi est plus fort que celui qui habite dans le monde. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu déclare et c'est ce que nous proclamons ce matin. Le corps de Christ, bien-aimé, c'est une réalité spirituelle que nous devons comprendre si nous voulons marcher jour après jour. Qu'est-ce qui caractérise le corps du Christ? Nous avons dit la première vérité, c'est d'accepter consciemment que Christ habite en nous. Mais en acceptant que Christ vit en nous, nous acceptons que nous sommes membres alors de son corps. Accepter que nous sommes membres du corps du Christ. Qu'est-ce que cela implique? Le corps du Christ, certes, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants dans le monde entier. Sans distinction de nationalité, de couleur, de race, de religion, de tribu, tout ce que vous voulez. Mais pour des raisons pratiques, pour le bon fonctionnement de ce corps, le corps de Christ prend vie dans l'église locale. Voyez-vous, si vous définissez le corps de Christ comme l'ensemble des croyants dans le monde, en Afrique, en France, en Europe, c'est bien, c'est ce que la Bible dit. Mais ce corps de Christ a besoin de fonctionner. Ce corps de Christ a besoin d'avoir une organisation. Et cette organisation, le seul endroit où cette organisation prend vie, c'est dans l'église locale. Et en ce qui nous concerne ce matin, c'est ici, à l'église de l'espoir, que le corps de Christ prend vie. C'est là que le corps de Christ prend vie. Le corps de Christ prend vie dans l'église locale. Et se manifeste pleinement sous le regard bienveillant de Jésus-Christ. Regardons Éphésiens, le texte qu'on a lu tantôt, au chapitre 4, versets 11 à 13. Il est écrit, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Bien-aimés, résumons ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si nous avons accepté que Christ vit en nous, et parce que nous avons accepté que Christ vit en nous, nous sommes membres de son corps. On est d'accord? Et ce corps, sa vie se manifeste principalement dans l'église locale, ici par exemple, à l'église de l'espoir. Et en acceptant que nous sommes un membre, cela signifie que nous acceptons que nous pouvons être un pied. Nous acceptons, nous disons que nous sommes membres du corps. Donc, nous acceptons que nous pouvons être un pied, nous pouvons être une main. Nous pouvons être l'oreille, l'estomac, le pancréas, citer tout ce que vous voulez. OK? Maintenant, imaginez un instant. Le matin, vous allez porter vos enfants au service de garde. Et là, vous sortez de votre auto et vous voyez un pied seul qui marche, qui amène son enfant aussi au service de garde. Je crois que vous allez désinscrire votre enfant à ce service de garde-là. Ou imaginez simplement que vous allez à votre bureau, vous êtes deux dans le bureau, Vous arrivez, vous ouvrez la porte de votre bureau, un œil est assis à la place de votre collègue. Je crois que même avec le salaire, vous donnerez votre démission. Voyez-vous, un membre seul ne peut pas être un corps. On ne peut pas être membre et être détaché. Quand on est membre, c'est quand on appartient à un corps. On ne peut pas être membre et être détaché. Si on n'appartient pas au corps, on n'est plus membre. Et si on n'est plus membre, on n'est plus rien. Voilà ce que la Bible enseigne. Aucun chrétien, c'est pour cette raison, bien aimé, qu'aucun chrétien n'est appelé à une marche de solitaire sur le sentier de la foi. Le chrétien a besoin des autres frères et sœurs qui partagent les mêmes convictions que lui pour marcher, pour aller chaque jour plus dans la marche de la foi. Si vous avez un bras, supposons que vous avez un bras qui reste toujours à la maison, à chaque fois que vous allez travailler, je crois qu'au bout d'un certain temps, vous le mettrez à la poubelle. Parce qu'il ne vous sert à rien. Il ne vous accompagne jamais nulle part. Acceptez que nous sommes membres du corps. Il faut regarder comment le corps humain est constitué. Acceptez que vous êtes un membre. Vous acceptez indirectement que vous pouvez être un membre visible. On est d'accord? Il y a des membres qui sont visibles. C'est comme Yannick. Qui ne connaît pas Yannick ici? Il n'y a pas grand monde. OK? Il y a des gens qui font la louange devant. Ils sont des membres visibles. Mais il y a aussi des membres invisibles. Des membres qu'on ne voit pas. Regardez, où se trouve le pancréas? Plusieurs personnes, je ne sais pas. Le cœur, au moins, on sait, avec ses mouvements, on finit par savoir où il se trouve à peu près. Mais les autres organes intérieurs ne sont pas visibles. Mais est-ce que les membres invisibles sont moins importants que les membres visibles? Non. C'est pourquoi, bien-aimés, ce ne sont pas les membres les plus visibles qui sont les plus importants. Et Dieu nous donne une leçon dans notre propre organisme en ce que les membres les plus invisibles sont souvent les membres les plus vitaux pour le bon fonctionnement de notre organisme. Bien-aimés, c'est ça, accepter être membre. On a aussi non seulement des membres visibles et des membres invisibles, mais aussi, bien aimé, on a de gros membres et de petits membres. On est d'accord? Il y a des membres qui sont énormes et des membres, quasiment, il vous faut un microscope pour savoir où ils se trouvent dans votre organisme. Est-ce que les petits membres sont moins importants que les gros membres? Certainement que non. Il y a aussi, bien aimé, des membres qui sont capables de faire plusieurs tâches. Ils peuvent faire 3, 4, 5, 6 tâches. Il y a des organes comme ça dans le corps humain qui sont capables d'accomplir plusieurs fonctions à la fois. On les appelle des membres multifonctionnels. Mais il y en a qui sont spécialisés seulement à une seule chose. Ils ne savent faire qu'une seule chose. Est-ce que ceux qui ne savent faire qu'une seule chose sont moins importants que ceux qui en font plusieurs à la fois? La Bible nous dit que non. Bien-aimés, il y a aussi des membres qui ne fonctionnent toujours que par paire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça vous prend toujours deux oreilles. On n'a jamais su pourquoi. Peut-être parce que pour mieux écouter. Pourquoi on n'a qu'une seule bouche? Peut-être pour moins parler. Je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a fait le corps humain. Voyez-vous, certains organes ont besoin d'être en paire pour fonctionner. D'autres sont bien contents d'être seuls. On n'a pas besoin de plusieurs estomacs. Si on avait plusieurs estomacs, je crois que à midi, les restaurants allaient connaître leur sort. Mais Dieu nous a donné un seul estomac et ça suffit. Et on est bien content de cela. Bien aimé, c'est la réalité du corps du Christ. Toutes ces vérités illustrées dans le corps humain sont présentes dans le corps du Christ. Et à cause de cela, bien aimé, une vérité importante, et ça c'est le deuxième aspect que j'aimerais aborder, l'Église, un corps vivant. Qu'est-ce que ça signifie? On vient de voir les différents aspects qui caractérisent la marche du chrétien. Accepter que Christ vit en lui. Et en acceptant ça, ça a des conséquences. Et à cause de ces conséquences, on a besoin des uns et des autres pour continuer à marcher ensemble. Mais c'est quoi une église comme étant un corps? C'est quoi l'église comme étant un corps vivant? Nous voulons aborder et expliquer, tenter d'expliquer cette réalité à la lumière de la parole de Dieu. Si un corps n'est pas vivant, ce n'est plus un corps. Ça s'appelle une dépouille. On est d'accord? Si un corps n'est pas vivant, ce n'est plus un corps, c'est une dépouille. Voilà pourquoi l'Église de Dieu n'est pas une dépouille, c'est un corps. C'est pourquoi on dit que le corps du Christ, la famille de Dieu, est un corps vivant. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Voyez-vous, je parlais des différents organes qu'il y a dans le corps. Les interactions qu'il y a entre les organes, il y en a plusieurs interactions parce qu'il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a de l'interaction, il y a du mouvement, il y a de l'animation. Et quand il y a plusieurs interactions, certaines interactions sont bénéfiques, sont joyeuses. Certaines interactions sont intéressantes, extraordinaires. Mais certaines autres interactions sont moins plaisantes et même parfois blessantes. Voyez-vous, c'est ça la réalité de l'Église de Dieu. C'est un peu l'histoire de la langue et des dents. Voyez-vous, la langue et les dents, ils ont des fonctions différentes. On est d'accord? Mais ils se mettent ensemble pour mastiquer un aliment et vous donnent de la saveur pour cet aliment. Et vous êtes content quand la langue et les dents sont en accord et arrivent à coordonner leur action. Mais malheureusement, parfois, sans savoir pourquoi, volontairement ou involontairement, dans un excès de zèle, les dents peuvent blesser la langue. Malgré la saveur de l'aliment, vous perdez le goût de l'aliment. Ça, c'est l'Église de Dieu. Ça, c'est la réalité de l'Église de Dieu bien-aimé. C'est ça qui définit l'Église de Dieu. Il y a des interactions qui sont tellement extraordinaires qu'on ferait comme les trois disciples de Jésus. On construit les temples, les tentes ici, on s'assoit ici, on ne bouge plus. Mais il y a des jours, on se dit, est-ce que moi je viens à l'église ce dimanche? Surtout si je dois rencontrer... Je ne finis pas ma phrase, on revient. Mais bien aimé, j'aimerais d'abord, pour parler de l'Église en tant que corps vivant, j'aimerais d'abord parler sur quoi repose l'Église. Sur quoi repose l'Église de Dieu? L'Église de Dieu ne repose pas sur le pasteur. Voyez-vous, l'Église de Dieu ne repose pas sur les épaules d'un homme, du pasteur. L'Église de Dieu ne repose pas sur le conseil des anciens. L'Église de Dieu ne repose pas sur un ministère particulier dans l'Église. Parce que s'il en était ainsi, bien-aimé, alors le jour où le pasteur n'est plus là, il n'y a plus d'Église. Puisque c'est sur lui que repose l'Église. Si c'était le conseil d'anciens sur qui repose l'Église, si le jour où le conseil d'anciens a un problème, il n'y a plus l'Église. L'Église de Dieu ne repose sur aucune de ces choses. L'Église de Dieu repose premièrement et avant tout sur la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention dans notre Église locale. Qui considérons-nous comme étant le chef de notre Église? Qui est le véritable chef de notre Église? C'est Christ. Il délègue cette autorité à des hommes et à des femmes pour l'administration de son corps. Mais c'est lui qui tient les rênes et c'est lui le chef absolu de l'Église. La vie de l'Église repose sur la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est la tête, c'est ce que la Bible nous dit, c'est lui la tête. Avez-vous jamais vu un corps sans tête? Un corps sans tête, ça n'existe pas parce que c'est la tête qui alimente le corps. C'est la tête qui donne l'impulsion au corps dans tout ce que le corps entreprend. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que nous puissions avoir la bonne chose à sa place, c'est-à-dire la tête, le Christ. La vie de l'Église repose sur une deuxième réalité importante, sur la fidélité de la promesse de Dieu. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas une œuvre humaine. L'Église de Dieu n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une association de bienfaisance. Ce n'est pas un regroupement de ceux qui ne savent pas quoi faire de leur dimanche matin. C'est une œuvre du Saint-Esprit que Dieu a commencé dès la création du monde, puis il l'amène à sa perfection pour le jour de son avènement. C'est ça l'Église de Dieu, bien-aimé. Il repose sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, je vous aime. Mais si je vous fais une promesse, rien ne vous garantit que je vais la tenir. Je peux changer d'idée, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas en campagne électorale. Il dit une chose, il vous promet de belles choses, et après l'élection, il fait le contraire. Entre-temps, parenthèse, il faut aller voter aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu n'est pas en campagne électorale. Dieu a les moyens de sa politique. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il a les moyens de l'accomplir. Il ne le dit pas pour nous faire plaisir. Voilà pourquoi, bien-aimé, si l'Église de Dieu repose sur ces deux vérités essentielles, la personne de Jésus-Christ comme tête suprême de l'Église, même dans l'Église locale, et la réalité que Dieu est fidèle à ses promesses, bien-aimé, nous sommes sur la bonne voie. Mais j'aimerais répondre à la dernière question. À quoi sert l'Église? L'Église, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important? Pourquoi je ne reste pas simplement chez moi le dimanche matin? Pourquoi endurer parfois les attitudes ou les comportements discutables de certaines personnes dans mon Église? L'Église, bien aimée, malheureusement, est parfois un lieu de conflit et de malentendus, de frustration. Mais la raison de cet état de fait, c'est que dans cette salle est remplie de pécheurs. Des pécheurs qui, malgré leur désir de marcher avec le Seigneur, vivent malheureusement et vivront malheureusement encore aussi longtemps qu'ils seront sur cette terre avec cette lutte de leur double personnalité, qui fait que parfois il va y avoir des frustrations dans l'Église. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu a appelé l'Église de Dieu. Bien-aimé, à quoi ça sert? J'aimerais vous donner trois raisons de l'utilité de l'Église. Premièrement, l'Église sert à veiller les uns sur les autres. Deuxièmement, à s'encourager mutuellement. Et troisièmement, à annoncer l'avènement du jour du Seigneur. Voyons rapidement le premier point. Veiller les uns sur les autres. Pourquoi dois-je veiller sur mon frère ou sur ma sœur? Est-ce que je suis son gardien? Malheureusement, on n'est pas les premiers à se poser cette question. Caïn s'est posé cette question en ce qui concerne son frère Abel. Il a demandé à Dieu, « Est-ce que tu m'as nommé gardien de Abel? Pourquoi me demandes-tu, il est où? » Bien-aimé, malheureusement, certaines fois, notre attitude est pareille à celle de Caïn qui venait de commettre le premier meurtre de l'histoire à cause de la jalousie. C'est pourquoi, quand nous lisons le deuxième texte dans Jean 3, 13 à 15, il est écrit, « Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste, quant à nous, si le monde vous déteste, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. » Bien-aimé, la première raison est que nous ne sommes pas du monde. Prenons le temps. Prenons le temps de penser à nos frères et sœurs. Prenons le temps de leur passer un petit coup de téléphone. De temps en temps, ça leur fait du bien. Prenons le temps d'aller les visiter comme nous on le fait ce matin depuis Sorel. Prenez le temps d'aller venir nous visiter à Sorel, même si des fois nous on a envie de venir vous visiter à Longueuil. Prenez le temps d'aller les visiter, prenez le temps de prier pour leurs problèmes, pour leurs difficultés, pour leur joie, pour leur temps de bonheur. Prenez ce temps-là parce que Dieu le désire ainsi. La deuxième raison, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça que nous appelons la nouvelle naissance. Donc, si nous sommes nés de nouveau naturellement, nous allons être portés à être avec les gens qui partagent les mêmes convictions que nous. Et la troisième raison, c'est que nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, c'est quoi la pire des souffrances que je peux vous infliger ce matin? Si je vous enfermais dans une chambre 9 mètres carrés, avec votre pire ennemi pour le reste de votre vie, je crois que là, vous aurez une vraie conséquence. On est d'accord. Mais c'est ce qui risque d'arriver. Si vous n'aimez pas un frère ou une sœur, vous êtes pris dans l'éternité avec ce frère-là. Il a la vie éternelle au même titre que vous. Que vous soyez d'accord ou pas, parce que ce n'est pas vous qui sauvez. C'est Christ qui sauve. Si vous n'aimez pas un frère et une sœur, vous êtes pris dans l'éternité avec lui. Vous auriez à le supporter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même, peut-être que Jésus va imposer que vous le regardez tout droit dans les yeux tous les matins. Donc, moi, je ne veux pas m'imposer cette corvée, alors je prends les devants. Je commence par aimer mes frères et mes sœurs ici-bas sur terre. Là, c'est un bon entraînement. Quand j'arrive, Jésus dit, regarde-le droit dans les yeux, 7 jours sur 7, 24 sur 24, je dis, j'ai déjà l'habitude. On le faisait depuis la terre. Bien-aimé, voilà la raison. Le corps du Christ, un corps vivant, à quoi ça sert? La deuxième raison, c'est s'encourager mutuellement. Mais comment le fait-on concrètement? La Bible nous donne une réponse dans le verset 16 à 18. Voici comment nous avons connu l'amour du Christ. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour nos frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Bien-aimé, aimer son frère et sa sœur, pourquoi? Parce que nous savons quelque chose. Nous ne les aimons pas parce qu'ils se comportent bien. Nous ne les aimons pas à cause de ce qu'ils sont. Nous ne les aimons pas à cause de ce qu'ils font. Nous les aimons tout simplement parce qu'ils sont nos frères et sœurs. Je sais que nous pouvons être parfois haïssables. Nos frères et nos sœurs sont parfois haïssables. Parfois, votre épouse est haïssable. Les femmes? Ok, non, j'ai oublié, je me suis mêlé un peu. Parfois, votre époux est haïssable. Parfois, c'est votre épouse qui sent, parfois même vos enfants, parfois vos parents. Mais est-ce que vous les détestez pour le reste de vos vies? Bien-aimés. Parfois, nous pouvons être haïssables. D'autres peuvent être haïssables. Et nous aussi, nous pouvons être haïssables. Nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs parce qu'à cause de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont, mais à cause du fait qu'ils sont nos frères et sœurs dans la foi. Donner sa vie pour son frère et sa sœur. Bien-aimé, des fois, c'est assez facile. Donner sa vie pour son frère et sœur. On dit, est-ce que c'est possible? Pensez-vous que c'est possible que vous puissiez donner votre vie pour votre frère et sœur? Comment croyez-vous être capable de le faire si, quand quelqu'un vient vous voir, tu sais, et la fille d'à côté, et le frère ou la sœur de l'autre fois, et regarde comment cette personne se comporte vraiment très mal envers moi. Notre réaction souvent, c'est quoi? C'est de tourner le couteau encore dans la plaie.
Ah, je pensais que j'étais le seul à l'avoir remarqué.
On tourne encore le... Est-ce que nous sommes prêts à prendre la défense de notre frère et sœur? Face à une accusation, qu'elle soit vraie ou fausse, mais on prend sa défense parce qu'on ne veut pas que cette personne lui fasse du mal. S'ils ne sont pas prêts à prendre la défense de notre frère et notre sœur, comment oserions-nous prétendre que nous pouvons donner notre vie pour notre frère et notre sœur? C'est impossible. Et la troisième raison, c'est que nous devons agir avec vérité. Bien-aimés, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui vous motive? Les motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Si j'aime mon frère et ma sœur parce que je veux être bien vu, je veux qu'on dise que Basile, vous savez, c'est il est bon. Il aime ses frères et sœurs. Si c'est à cause de ça que j'aime mes frères et mes sœurs, je suis vraiment loin de la vérité. J'aime mes frères et mes sœurs parce que la parole de Dieu me le recommande. Bien-aimé, la dernière raison pour laquelle l'Église de Dieu est une nécessité, c'est que si nous vivons dans l'unité en tant que corps de Christ et que le corps de Christ prend vie dans l'église locale, alors nous devons accomplir la mission ultime de l'église, annoncer l'avènement de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3, verset 19, « Par là, nous saurons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » La meilleure chose qui puisse vous arriver ici ce matin, bien-aimé, c'est d'avoir la conviction que vous êtes sauvés. l'assurance que vous êtes sauvé. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver ce matin. Et quand l'amour de Christ habite en nous, cet amour se démontre vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Mais ne se limite pas à eux. Elle va se démontrer vis-à-vis de toutes les personnes que Dieu place sur notre route. Et ces personnes, nous brûlons de l'envie, du désir de leur annoncer cette belle vérité que nous avons connue, qu'il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Combien convaincants nous pouvons être vis-à-vis du monde si nous sommes nous-mêmes convaincus. Si nous sommes nous-mêmes convaincus, bien-aimés, nous pouvons être vraiment convaincants. Nous devons utiliser nos talents et nos dons pour édifier l'Église. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qui permet à l'Église d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Quand tous les hommes et les femmes dans l'Église collaborent avec leurs talents, leurs dons, pour que l'Église grandisse comme un corps bien coordonné qui tire toutes ses ressources de l'ensemble de ses parties, s'édifie soi-même et s'élève comme un temple à la gloire de Dieu, alors, bien-aimés, cette Église est bâtie, formée, engagée pour prêcher l'Évangile au monde qui ne connaît pas Christ. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Et le dernier élément, nous devons manifester la passion pour les âmes perdues. Bien-aimés, ces âmes perdues ne sont pas seulement les gens, nos voisins. Des fois, ce sont nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, des personnes qui nous sont chères. Nous devons vivre avec ce fardeau que si ces personnes-là n'écoutent pas le seul évangile qui peut sauver leur âme, ils mourront et ils passeront leur éternité loin de Dieu. Il n'y a pas de chemin de retour. Voilà la vraie mission de l'Église. Et pour que l'Église accomplisse cette mission, elle a besoin d'être unie. Elle a besoin de tirer sa force de l'ensemble, des contributions de l'ensemble de ses parties. J'aimerais finir ce matin en vous racontant une histoire. C'est un fait vrai. Lors d'une réunion de l'Association américaine de psychologie, Jack Lipton, psychologue à Union College, et R. Scott Boulian, un étudiant du troisième cycle de l'Université de Columbia, ont présenté les résultats de leurs recherches sur la perception qu'ont les membres de chacune des 11 grandes sections qui composent un orchestre symphonique, les uns des autres. Les percussionnistes sont considérés comme insensibles, sans intelligence et durs d'oreille, mais ils aiment s'amuser. Les joueurs d'instruments à cordes sont considérés comme arrogants, mais très peu athlétiques. Les membres de l'orchestre ont majoritairement choisi l'adjectif fort pour décrire les joueurs de cymbales. Les joueurs d'instruments à vent semblaient se tenir en très haute estime, décrits comme calmes et méticuleux, mais un peu égoïstes. Résultat intéressant, dirions-nous, avec de telles personnalités très différentes et des perceptions aussi tranchées. Comment un orchestre arrive-t-il à s'unir pour produire une musique si merveilleuse? La réponse, bien-aimée, est simple. Peu importe la façon dont ces musiciens se voient les uns les autres, ils soumettent leurs sentiments et leurs préjugés à la direction du chef d'orchestre. Sous sa direction, ils jouent la plus belle musique. Aussi, peu importe la manière dont vous me voyez ce matin, peu importe la manière dont je vous vois ce matin, peu importe la manière dont vous vous voyez les uns les autres, la Bible déclare que si, peu importe nos préjugés, qu'ils soient d'ordre racial, social, culturel, si nous soumettons nos perceptions et nos préjugés sous la direction du maître d'orchestre absolu en la personne de Jésus-Christ, alors nous formerons un corps parfait, une famille de Dieu dans laquelle chaque membre du corps tire la croissance, sa croissance et s'édifie lui-même et se construit jour après jour et bâtit l'édifice de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, la famille de Dieu. Prions le Seigneur. Père Saint, il t'a plu de donner ton Fils Jésus-Christ, une fois pour toutes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à toi, Seigneur, tu les as conduits dans une église locale. Et dans cette église, tu demandes à ce qu'ils s'édifient et qu'ils forment ce temple merveilleux que tu es en train de préparer pour le jour de ton avènement. Seigneur, puisses-tu ce matin se servir de ces faibles paroles dont j'ai été porteur pour faire un travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Puisses-tu te servir ce matin, Père Céleste, de toutes mes incapacités à transmettre fidèlement ton message et te servir de ces faibles paroles pour faire naître une flamme ardente dans le cœur de chacune et de chacun ce matin, afin que nous puissions comprendre cette dimension extraordinaire de ton Église. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour l'Église de l'espoir. Merci pour toutes les personnes que tu as placées dans cette Église à un moment donné et qui contribuent jour après jour, de par leur talent, de par leur don, à l'édification de ton corps ici, localement, dans cette ville. Béni sois-tu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.